on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. On en est rendu à l'Épître aux Corinthiens. Dans notre étude du livre de la première Épître aux Corinthiens, nous allons examiner les points suivants. L'arrière-plan, donc son auteur, les destinataires, le lieu et la date de composition, le contenu, son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, les plans du livre et quelques observations. On commence par le premier point, l'arrière-plan de la première épître aux Corinthiens. L'Église de Corinthe nous est mieux connue que toutes les autres églises des temps apostoliques. Les échanges de lettres de Paul avec les Corinthiens occupent la plus grande place dans la partie épistolaire du Nouveau Testament. Ces lettres sont d'une grande valeur pour nous, car elles nous renseignent sur la vie et les problèmes d'une Église primitive, en même temps qu'elle jette une lumière nouvelle sur la personnalité de l'apôtre Paul. La première épître traite une dizaine de sujets différents. Elle est essentiellement pratique, mais contient cependant quelques passages d'une grande importance doctrinale. Le seul développement des épîtres sur la scène, les textes les plus détaillés sur l'Église, le corps de Christ, sur les dons spirituels et la résurrection. Enfin, le magnifique chapitre 13 sur l'amour constitue l'apogée et la clé de la lettre, car en fin de compte, toutes les difficultés de Corinthe provenaient d'un manque d'amour. C'est aussi l'une des épîtres les plus importantes du groupe sotériologique. Si elle n'explique pas le mécanisme du salut, comme l'épître aux Romains, elle en montre les applications dans tous les domaines de la vie. Elle nous apprend à prendre les problèmes les plus pratiques avec le même sérieux que l'apôtre et à examiner comment, ici et maintenant, la vie nouvelle qui découle de la croix pourra trouver l'expression qui contribuera le plus à la gloire de Dieu. Donc l'auteur, dans les premiers versets, l'épître est attribué à Paul. Peu de commentateurs contestent cette paternité. Les destinataires. Corinthe était la capitale de l'Achaïe, partie méridionale de la Grèce, et l'un des principaux centres de la civilisation grecque. Bâtie sur l'isthme entre la mer Égée et la mer Ionienne, elle faisait le trait d'union entre l'Italie et l'Asie. Confluent des marchandises, des races et des cultures de tout le bassin méditerranéen, incendiée en 146 avant Jésus-Christ, mais rebâtie par Jules César, en 44 avant Jésus-Christ, elle se relèvera rapidement de ses ruines et grandit comme une ville champignon. Au temps de l'apôtre Paul, elle comptait près de 700 000 habitants, dont 400 000 esclaves, des colons romains, des juifs, attirés par le commerce florissant, alimentés par les deux ports. Tous les cultes grecs, romains et orientaux s'y côtoyaient. On a retrouvé les ruines de 12 temples. Les écoles des rhéteurs, philosophes et artistes étaient florissantes. Les Corinthiens étaient friands de sagesse et de connaissances. Mais la corruption des mœurs emboîtait le pas à la prospérité matérielle. Au sommet de l'Acropole, le temple d'Aphrodite comptait 1000 prêtresses livrées à la prostitution sacrée. Corinthisées, signifiait, dans tout le monde antique, mener une vie dépravée. La lettre de Paul visait les chrétiens vivant dans cette ville. L'Église de Corinthe vivait d'importants problèmes que Paul voulait corriger. Les quatre parties dans l'Église, la contestation de son autorité, un chrétien vivant une relation incestueuse sans que l'Église ne réagisse, que les membres se faisaient des procès devant les tribunaux pour des vétilles, des chrétiens qui fréquentaient encore des prostituées, des femmes se tenaient mal dans les assemblées, des désordres lors des repas du Seigneur, des membres qui enseignaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Le lieu et la date de composition, la lettre a été écrite d'Éphèse vers 56-57 après Jésus-Christ. Deuxième point, le contenu de la première lettre aux Corinthiens. Suite à la salutation et à l'expression de reconnaissance adressée au Dieu, dont l'œuvre a enrichi les croyants de l'Église de Corinthe, Paul débute la première grande section de l'Épître. Celle-ci traite des profondes divisions internes de l'Église et de sa méprise fondamentale à l'égard du statut des responsables chrétiens. Par des informations qui lui sont apportées par les gens de la maison de Chloé, Paul a entendu parler de l'esprit de parti qui conduit divers secteurs de l'Église à s'identifier à tel ou à tel responsable en particulier, tout en se glorifiant apparemment de la sagesse supérieure du choix effectué. Paul rejette cette prétendue sagesse. Elle s'oppose à tout ce qu'il chérit, tant et si bien que si elle devait l'emporter, l'Évangile lui-même pourrait être rejeté comme folie de Dieu. Devenir chrétien signifierait alors devenir fou, et prêcher l'Évangile sans éloquence manipulatrice ni autopromotion, mais dans la simple dépendance de la vérité et de la puissance du message du Messie crucifié, serait l'essence même de l'ignorance. Inversement, si la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde, si les chrétiens se réjouissent de ce que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages et pour montrer que le Christ seul est sagesse de Dieu, si les priorités de la prédication de Paul sont fondatrices, alors les Corinthiens, dans leur quête de sagesse du monde, contredisent implicitement leur profession de foi chrétienne. Cela ne signifie pas que l'Évangile chrétien n'a rien de sage, loin de là. La sagesse de Dieu se révèle non seulement à la croix du Christ publiquement, mais aussi par l'Esprit à chaque individu, faute de quoi il ne la comprenait pas. Malheureusement, Paul n'a pu s'adresser aux croyants de Corinthe comme s'ils étaient spirituels parce qu'ils ne vivaient pas en accord avec leur vocation. Ils demeurent divisés en divers partis, attachés à des responsables bien connus. Ils sont donc au mieux des petits-enfants. Paul doit donc apporter des précisions sur ce que sont les responsables chrétiens. Dans le reste du chapitre, il cherche à ôter les fausses impressions qui règnent en la matière, d'abord par deux métaphores, l'une agricole, l'autre tirée de l'industrie de la construction. Pour mettre en lumière la nature complémentaire du travail des responsables, ceux-ci doivent d'ailleurs rendre compte à Dieu de la qualité de leur œuvre, d'où la mise en garde qui suit contre tous ceux qui détruisent l'Église. Revenant au contraste entre sagesse et folie, Paul s'attaque directement au reste des conceptions erronées du rôle des responsables chrétiens. Les Corinthiens se trompent s'ils pensent que leur esprit partisan est une marque de sagesse, car l'Écriture promeut l'humilité, et ceux qui font preuve de maturité chrétienne véritable reconnaissent qu'en Christ, tous les responsables chrétiens et tout le reste d'ailleurs font partie de l'héritage chrétien. Paul conclut en montrant que les responsables chrétiens et ceux qui les suivent doivent ensemble reconnaître que Dieu seul est celui qui peut porter un juste regard sur les personnes et évaluer correctement leur œuvre. D'ailleurs, les Corinthiens pourraient apprendre cette leçon s'ils prenaient tout simplement conscience du contraste qui existe entre leurs propres prétentions vantardes et la manière dont les apôtres sont traités en déchets du monde. Ils devraient apprendre à imiter la conduite chrétienne de leur Père en Christ, l'apôtre Paul lui-même, et donc à s'aligner sur ce qui est normatif dans d'autres églises. La perspective de la visite imminente de Paul constitue à la fois un dernier appel et une menace à peine voilée. Il est difficile de savoir si les autres nouvelles qu'aborde Paul au chapitre 5 et 6 viennent aussi de chez Chloé, ou si elles viennent d'autres sources, peut-être de Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus. Trois questions dominent ces chapitres. La première concerne un cas d'inceste qui conduit Paul à clarifier ce qu'il avait voulu dire dans une précédente lettre aux Corinthiens. La seconde concerne un problème de litige entre croyants. Et la troisième concerne les membres de la communauté corinthienne qui comprennent mal leur présumée spiritualité s'ils pensent avoir la liberté de prendre part à des unions sexuelles extra-conjugales, probablement parce qu'elles n'impliquent à leurs yeux que le corps. En réponse à une demande écrite des Corinthiens, probablement apportée à Paul par Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus, Paul aborde divers thèmes. Le premier concerne le mariage et des questions qui lui sont liées. On voit parfois dans le second, qui est celui des viandes sacrifiées aux idoles, une ou deux digressions, mais le raisonnement paraît assez clair. Dans le chapitre 8, versets 1 à 13, Paul souligne que les désaccords qui concernent les viandes sacrifiées aux idoles doivent être tranchés sur la base de l'amour sacrificiel et non d'une prétendue connaissance supérieure. Le chapitre 9, qui se présente en partie comme une défense de l'apostolat de Paul, montre que celui-ci voit un rapport entre ce problème et les dissensions des chapitres 1 à 4. Dans les deux cas, c'est le triomphalisme qui l'emporte. Paul combat ses maux et aborde les deux problèmes en rappelant son propre attachement au sacrifice de soi, qui est la véritable marque de son apostolat. Ses nombreux droits d'apôtre, il les met volontairement de côté pour gagner le plus grand nombre en Christ. Ce modèle de maîtrise de soi et de renoncement doit caractériser tous les chrétiens. L'exemple négatif d'Israël est donc directement à propos. Il est si facile de bien commencer, mais de ne pas persévérer, et donc de tomber sous le jugement de Dieu. Si l'on veut éviter l'idolâtrie, il ne faut pas participer au culte des temples païens. Les trois problèmes que Paul aborde ensuite concernent les rassemblements publics des chrétiens de Corinthe. Les relations entre hommes et femmes sont traitées en premier, notamment telles qu'elles se font jour dans le débat qui porte sur le voile des femmes. Viennent ensuite les excès qui accompagnent le repas du Seigneur. Troisièmement, Paul traite de la répartition et de l'exercice des dons de l'Esprit, du chapitre 12 aller jusqu'au chapitre 14, et en particulier de la valeur respective de la prophétie et des langues. À ce sujet, l'apôtre insiste sur la nécessité, sur la nécessaire diversité dans l'unité, sur le caractère indispensable et permanent de l'amour, qui est l'approche par excellence dans le chapitre 13, sur l'importance de l'intelligibilité dans les réunions publiques de l'Église, chapitre 14, ainsi que sur l'ordre qui convient à l'exercice des dons dans le cadre des rassemblements de l'Église. Dans le chapitre qui est le plus spécifiquement théologique de la lettre, Paul traite de la résurrection des croyants, chapitre 15, soulignant que le prototype en est la résurrection de Jésus-Christ. Il nie l'existence d'un quelconque fossé entre ces deux résurrections du point de vue de leur nature et oblige ainsi ses lecteurs à orienter leurs regards et leurs aspirations vers le triomphe final. Paul met un point final au questionnement écrit des Corinthiens en réglant quelques questions à propos de la collecte et de la venue d'Apollos. L'épître s'achève par quelques exhortations et salutations finales. Troisième point qu'on va regarder, le but principal de la première lettre aux Corinthiens. Après le départ de l'apôtre, Apollos a passé quelque temps à Corinthe, puis il est reparti à Éphèse. Son habileté rhétorique a emballé certains membres de l'Église. Peut-être l'apôtre Pierre a-t-il également été à Corinthe, ou bien des judéo-chrétiens convertis par lui, venus dans l'Église. Paul y avait gardé des adhérents convaincus, et opposé à ces trois factions, un mystérieux parti de Christ prétendait ne suivre aucun enseignement humain. Et voilà l'Église divisée. D'autres problèmes, relatifs surtout au rapport avec les gens du monde, ont créé des tensions dans l'Église. L'apôtre, en ayant été informé, envoie une première lettre aujourd'hui perdue. La situation se dégrade dans l'Église. Les serviteurs attachés à la maison de Chloé viennent le raconter à Paul. Peut-être commence-t-il immédiatement à écrire les six premiers chapitres de notre lettre. Peu après, arrivent trois messagers de l'église de Corinthe, porteurs d'une lettre contenant diverses questions. Paul y répond dans les chapitres 7 à 16. Au même temps, il envoie Timothée à Corinthe en passant par la Macédoine, mais celui-ci n'y arrivera qu'après la lettre, qui sera envoyée par bateau, sans doute par les trois délégués corinthiens. Les informateurs de Paul lui ont signalé les parties dans l'Église, l'inceste d'un des membres, les procès entre chrétiens, la fréquentation de prostituées par certains chrétiens, les libertés prises par certaines femmes par rapport aux coutumes régnantes, le désordre lors des agapes accompagnant le repas du Seigneur, les hérésies enseignées par certains au sujet de la résurrection des morts. Il lui avait aussi dit que son autorité était contestée par des gens qui prônaient la sagesse et la connaissance. La lettre des Corinthiens contenait 4 questions auxquelles l'apôtre répondra en employant la même formule chaque fois qu'il passe à un autre sujet. Vaut-il mieux se marier ou rester célibataire? Peut-on participer aux banquets dans les temples païens? Qu'en est-il des dons spirituels? Peuvent-ils amener quelqu'un à maudire Jésus? Ou comment agir au sujet de la collecte? Donc les thèmes et la structure littéraire de 1 Corinthiens. Cette épître procède de façon méthodique et séquentielle dans son adresse des problèmes qui sont venus à l'attention de Paul. Il donne aussi des réponses à différentes questions et problèmes qui lui sont posés par lettre. Les 3 divisions de 1 Corinthiens sont 1. La réponse du rapport de Chloé sur les divisions. 2. La réponse au sujet de la fornication et du désordre. 3. La réponse à la lettre contenant plusieurs questions. Comme il se prépare à résoudre les différents problèmes et à répondre aux questions, Paul proclame la toute suffisance de Christ pour régler les différents aspects de la vie du croyant. Le Christ Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Verset 30 du chapitre 1. En traitant la question de l'immoralité sexuelle présente dans l'Église de Corinthe, Paul insiste sur l'importance de la discipline de l'Église et de son exercice et de sa pureté. Paul indique que le but premier de la discipline est la restauration de la personne croyante égarée. La relation entre la liberté chrétienne et l'amour chrétien est aussi explorée. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Le chapitre 13 est l'exposé le plus complet et le plus profond sur l'enseignement de l'amour chrétien. De plus, 1 Corinthiens contient l'instruction doctrinale sur la place des dons spirituels dans l'Église, chapitres 12 à 14, et sur la nature du corps ressuscité. Alors, comme d'habitude, on a toujours les deux plans. Un plan que je joins, ceux qui m'entendent sur Internet peuvent télécharger la leçon, et à ce moment-là, vous allez avoir les deux plans. Un plan succinct, donc un plan court, et un plan plus détaillé, qui peut être très pratique lorsque vous voulez étudier l'épître en profondeur. On serait rendu au 6e point. Quelques observations sur 1 Corinthiens. Première observation, c'est sur les problèmes sexuels dans l'Église de Corinthe. Certains membres de l'Église de Corinthe étaient juifs. Ils avaient été élevés dans le respect des règles de conduite claires relatives à l'inceste, à l'adultère et aux rapports homosexuels. Or, on estimait que les chrétiens n'étaient pas tenus d'observer toute la loi juive. Jésus n'avait-il pas apporté la liberté et le changement à ses disciples? Il restait à savoir quelle était l'ampleur de cette liberté en matière de sexualité. Il semblerait qu'il y avait à Corinthe des partisans de l'abstinence totale qui enseignaient aux chrétiens qu'ils étaient déjà ressuscités à une vie dépourvue de relations sexuelles. Ils refusaient de coucher avec leurs conjoints. Quelques-uns allaient même jusqu'à se séparer ou se divorcer. Il y avait aussi des partisans de la permissivité qui estimaient que les chrétiens étaient libres d'avoir des rapports avec des prostituées pour satisfaire leur instinct, au même titre qu'ils satisfaisaient leur faim. Paul recourut à 5 grands thèmes chrétiens pour indiquer quelles étaient la limite à la liberté chrétienne. Ensuite, il y a les observations sur la création. Alors, Dieu a institué les rapports sexuels pour permettre à l'homme et à la femme de contacter un engagement réciproque au sein du mariage qui produit une unité spéciale, une seule chair. Ces rapports sont d'égalité, le corps de l'un appartenant à l'autre, librement, donc sans contrainte, s'ils s'accordent pour s'abstenir l'un de l'autre momentanément, qu'ils reprennent ensuite leur relation conjugale. Ensuite, le thème de la rédemption. Bien qu'elle ait été créée bonne, la sexualité porte en elle-même le pouvoir de blesser et de faire souffrir depuis la chute. De nombreux chrétiens s'adonnaient autrefois aux péchés d'ordre sexuel et à d'autres péchés tels que la cupidité et l'ivrognerie. Les chrétiens ont été sauvés du péché à un très grand prix. Le Saint-Esprit a fait sa demeure en eux. Avoir des rapports sexuels au cours desquels le corps dit « Je t'aime et je me donne à toi » alors que le cœur refuse de s'engager n'est pas seulement un péché contre autrui, c'est aussi un péché contre soi-même, car il est porté atteinte à l'intégrité du corps et de l'intelligence, ce qui est précieux aux yeux de Dieu, se trouve dévalué. La résurrection maintenant. La résurrection est un autre signe que le corps ne peut être disjoint du cœur et de l'intelligence. Le Christ ressuscité avait un corps. Après leur mort, Dieu ressuscitera un jour avec un corps nouveau, ceux qui lui appartiennent. Aussi le thème de la communauté. En attendant, les chrétiens sont membres d'une communauté. Chaque membre est uni au Christ et aux autres chrétiens, comme les différentes parties du corps sont unies entre elles. Si les membres de cette communauté unissent leur corps à l'occasion de rapports sexuels illégitimes, toute la communauté en souffrira. Il y avait des exemples de cette immoralité au sein de l'Église de Corinthe. Ces membres auraient dû être désolés plutôt que d'être fiers. Et la vocation reçue de Dieu et ses dons. Les rapports sexuels hors l'engagement fidèle du mariage ne sont pas autorisés aux chrétiens. La sexualité est précieuse, ce qui n'implique pas que chacun en exploite tout le potentiel. Les circonstances, comme le fait d'être esclave, par exemple, peuvent imposer des limites parfois pénibles. Mais à l'intérieur de ces limites, tous les chrétiens sont libres de considérer leur vie comme une vocation reçue de Dieu et à vivre pour sa gloire. Le célibat peut aussi être accepté comme un don de Dieu et être vécu dans toute sa plénitude au sein de la communauté chrétienne. Paul n'accorde aucune valeur spirituelle à l'abstinence de rapports sexuels, mais il plaide vigoureusement en faveur du célibat parce qu'il peut offrir une grande liberté pour servir le Seigneur. Un autre point considéré, les enseignements applicables à notre temps. On se tromperait grandement si l'on croyait que ces écrits n'ont qu'une importance historique et renferment peu d'enseignements applicables à notre temps. Dans ces rapports de l'Église apostolique, se reflète au contraire la vie de l'Église de toutes les époques et spécialement la nôtre. Le danger qui à Corinthe menaçait plusieurs membres du troupeau est précisément la grande tentation de nos jours, une véritable idolâtrie de la sagesse humaine préférée à la vérité éternelle de Dieu, le relâchement des principes moraux, la sensualité, une fausse spiritualité dans laquelle s'évapore le puissant réalisme de la Bible, la prédominance d'un subjectivisme qui franchit les limites imposées d'en haut à l'intelligence et à la liberté humaine, ne sont-ce pas là les principes, les principales maladies de notre temps? Le cœur de l'homme ne change pas, et les principes qui ont gouverné l'action de Paul sont tout aussi importants pour nous que pour les Corinthiens du 1er siècle. Et il termine par une brève étude très rapide des dons spirituels. Alors, on a le tableau, ceux qui auront téléchargé, qui nous montre la liste des dons spirituels, mais dans quatre passages différents. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10 et verset 28, et l'autre liste qu'il y a dans Romains 12, versets 6 à 8, Un autre liste qu'il y a dans Éphésiens, chapitre 4, 11 à 12, et une courte liste qu'il y a dans 1 Pierre, chapitre 4 à 11. Alors, quelqu'un qui veut étudier les dons spirituels se doit d'aller regarder l'ensemble des quatre points et qui donne une interprétation, qui donne une liste, et on faudrait étudier en profondeur là, pour avoir vraiment... il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet des dons spirituels. Alors, autre grand thème à étudier dans 1 Corinthiens, l'étude détaillée du chapitre sur l'amour de 1 Corinthiens 13 et sur la résurrection de 1 Corinthiens 15 serait extrêmement profitable. Une lecture très attentive et une étude approfondie de tout l'épître nous serait grandement profitable. Alors, une application de l'ensemble de ce qu'on a regardé, l'étude de tout le livre nous rappelle que nous sommes faibles, misérables et sujets à l'erreur. N'ayons pas peur de l'étudier et de voir comment la Bible règle les problèmes humains. Lisons-la souvent avec prière et méditons son riche contenu. Que le Seigneur soit béni pour nous avoir donné la première épître aux Corinthiens. Mettons en pratique ses enseignements par sa grâce et pour sa gloire. Amen.